Bonjour et bienvenue dans Certains Les Machos, l'émission qui épouvante les films à la sortie. Ouh, salut Thierry.
Salut Thomas. Tu veux récupérer ton ballon, Thomas? Tu aimerais... Tu le veux? Tu veux flotter avec moi?
Waouh. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons voir le biopic de Marc Dutroux. Une semaine un peu particulière, Thierry, puisque tu étais à Deauville, au festival américain du film de Deauville. Tu es allé voir pour nous plein de magnifiques films. Tu nous en parleras à la fin de l'émission.
Ouais, je sais déjà à l'avance qu'il y en a plein, malheureusement, dont je parlerai pas parce que j'ai besoin de réorganiser mes pensées. Mais je vais essayer d'en aborder le maximum.
Et en attendant, on va vous parler des films marquants, des grosses sorties de la semaine, c'est-à-dire Ça, chapitre 2, et Deux mois, de Cédric Clapiche. Ainsi que du nouveau Woody Allen, que tu as vu d'ailleurs à Deauville.
Tout à fait.
Mais qu'on a vu sans toi parce que t'étais pas là, et qui sort la semaine prochaine. On commence tout de suite.
We made an oath.
I swear. If it isn't dead, if it ever comes back, we'll come back to you.
We didn't stop it.
Pennywise.
The clown.
We can't let it happen again.
Hello?
Kid?
Ça m'a paru bien long.
Chapitre 2.
2h... Ouais, chapitre 2. Ça m'a paru bien long, chapitre 2. 2h49 de film pour le deuxième opus, la suite de ça, chapitre 1. Du coup, l'adaptation du roman de Stephen King. Donc, c'est pas le téléfilm cette fois-ci, c'est le film à l'écran. Un film de Andy Muschietti, qui avait déjà réalisé le premier, qui avait également réalisé Mama, avec Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Issaï Mustapha, et on a un petit coucou de Xavier Dolan qui vient par là. Je suis pour parler de ça, je suis avec Thierry, hein, qui a fait le voyage exprès. Hein. J'espère que tu ne regrettes pas ton train et tes heures tardives de ce soir, Thierry.
C'était ça, ou voir le film de clôture d'Olivier Assayas. Bon, écoute.
Tu ne regrettes pas, c'est... Ouais, on ne sait pas trop. T'as pas l'air de regretter, bon ça va. Et avec nous, nous avons Julien. C'est Julien.
Salut.
Alors, pourquoi est-ce que vous êtes là tous les deux? Parce que vous êtes les seuls de l'équipe à avoir vu le premier chapitre de ça. Moi, je n'avais pas vu le premier. Et s'il est de ce niveau-là, je regrette pas.
Parce qu'on a un très mauvais instinct.
Il n'est pas de ce niveau-là, le premier est beaucoup mieux.
Pour résumer un peu l'histoire, donc c'est une espèce de clown qui fait peur et qui tue les enfants, quoi.
Ouais, avant d'aller dans les détails vraiment et de ce que ça raconte vraiment, ouais, dans le détail c'est ça. Ça se passe à Derry, il y a une bande de gamins qui s'appelle le Club des Ratés, qui vont être une bande de copains en fait qui va se découvrir, qui sont tous conscients qu'il y a un clown qui bute des gosses, en gros, qui se nourrit de gamins, et qui vont donc l'affronter. Ça c'est le premier opus. Celui-ci se passe 27 ans plus tard, quand, de manière cyclique, en gros, suite au meurtre, bon, tout premier meurtre qu'on voit au début, l'un des personnages qui est resté à Derry se rend compte que ça est revenu et donc qu'il est temps de le réaffronter une nouvelle fois et qu'il n'y arrivera pas sans ses amis. Donc il rappelle tous ses amis qui ont totalement oublié cette histoire, qui sont partis vivre leur vie chacun de leur côté, et ils reviennent donc pour le réaffronter et pour avoir aussi le flot de souvenirs qui revient et leur traumatisme qui revient. Ça, c'est vraiment les grandes lignes, parce que, évidemment, ça ne parle absolument pas de ça en réalité. On y viendra.
Ça ne parle pas de ça.
Voilà.
Alors, tu le sens, les jeux de mots relous avec ça quand...
Enfin, ça, c'était pour la team ultra premier degré. Et je suis sûr qu'il y en a un dans le public. Voilà.
Bon, en fait, ça parle surtout des peurs. On va voir un petit catalogue des peurs et des trucs bien dégueux. Alors moi, je vais donner mon ressenti de quelqu'un qui enfin, j'avais vu le téléfilm à l'époque quand j'étais petit, quand j'étais marmot, quand j'étais peck, comme on dit dans le sud. Ça m'avait fait bien flipper à l'époque. Alors là, ce soir, ça m'a pas fait tant flipper que ça. C'était dégueulasse, les effets spéciaux, le côté dégueu, hein, ok, ça d'accord. Mais après, le reste du temps, je me suis ennuyé, bon sang. Oh, oh que c'était long. Mais que c'était long. Vous qui avez vu le premier... Enfin,
Le premier est beaucoup plus équilibré, le premier est beaucoup mieux foutu. Il fera beaucoup plus peur à un jeune public, puisqu'en même temps, ça se passe quand ils sont tous enfants. Donc nous, à part être... Enfin, moi, j'ai été subjugué par le côté esthétique, c'était très bien foutu. Je suis très content parce que c'est un blockbuster d'horreur, ça. Hein. C'est gros casting, énorme budget. Et c'est cool qu'ils aient pris un mec qui vient de l'horreur pour faire ça. Donc un gars qui connaît ce genre d'esthétique, qui sait jouer avec les jumpscares, qui sait en faire des différents. Le côté soit celui qui te pop direct à la gueule et que tu vois venir, et après le second, pof, il te le fait différemment, comme ça il te surprend. Ça c'est très très bien foutu, et le premier est équilibré, vraiment, et il avait très bien réussi la double lecture du bouquin, sur laquelle on reviendra.
Julien, quelles sont tes premières impressions ?
Ah non, c'était pas bon, oula, c'était pas bon. C'était très 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 mauvais. Le premier n'était pas un film qui faisait vraiment peur, en tout cas pour un public d'adultes, mais il y avait un bon équilibre entre l'espèce d'histoire d'initiation adolescente et l'épouvante. Là, il y a un gros problème de rythme, les personnages sont relativement développés. C'est-à-dire, à la différence du premier, où ils appréhendaient les personnages dans le groupe, excepté pour peut-être trois d'entre eux qui avaient droit à leur développement personnel, là, ils prennent chacun des personnages. D'ailleurs avec une pirouette scénaristique assez grossière qui doivent vraiment réaliser leur quête initiatique. On leur dit carrément, hein, c'est pas quelque chose qui se produit de fil en aiguille, on leur dit tu dois faire ta quête initiatique là tout de suite maintenant. C'est ridicule. Et donc chacun des personnages pour le coup est développé individuellement, et pourtant on a l'impression qu'ils le sont moins que dans le premier.
Thierry confirme, il fait oui de la tête.
Et du coup on a 2h50 de film. On a l'impression, alors en plus le montage super cut, même des séquences qui n'ont absolument pas à être cutées de la sorte, donne l'impression que tout est rushé en permanence, alors que le film fait 2h50 et le développement des personnages inférieur à celui du premier fait qu'on a l'impression que c'est pas passé grand chose en fait.
Ben, moi j'ai pas l'impression qu'il s'est passé grand chose parce qu'en fait chacun part dans son coin, cherche un item, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon ils y vont. Donc ils font tous leur truc en même temps, mais le film va les montrer un par un. Et heureusement que le groupe est pas complet quand même, hein, parce que ça veut dire que ça aurait encore rallongé.
Enchaînement de scénettes quoi, ça fait enchaînement de scénettes.
Ouais, ouais.
C'est affreux. Mais en plus surtout, oui c'est ça, les personnages sont absolument pas développés, il s'est passé 27 ans. 27 ans dans laquelle, moi c'est la première remarque que je vous ai fait, hein. Je vous ai regardé, j'ai fait, sérieusement le film fait 2h50, on a déjà, ça doit faire 10 minutes, on a déjà passé, voilà ce qui s'est passé en 27 ans. C'est chaud, c'est chaud.
Oui, alors en fait, pour expliquer ce qui s'est passé en 27 ans, c'est...
Machin s'est marié, machin fait ça, machin a un boulot, machin a écrit un livre, oh là là.
C'est ça, c'est juste le passage où il y en a un qui appelle, et on a juste les 5 minutes avant l'appel, quoi.
Alors, dans le bouquin, c'est... En effet, c'est la première partie du tome 2, c'est pas l'essentiel du livre, mais c'est très développé. Et là, c'était intéressant. Est-ce qu'on commence à entamer la deuxième lecture pour que je commence à expliquer justement ce que je...
Ah ben là, je pense qu'on a assez... Là, on a compris que c'était monté à l'arrache et que bon, les effets spéciaux étaient cool. Les effets spéciaux sont cool, les effets sont dégueux, mais ça suffit pas à faire un grand film. Quelque chose à dire sur les effets spéciaux, Julien ?
Oui. Non ? Je voulais juste demander, Thierry, toi qui as lu le livre, est-ce que les ficelles qui relient les personnages entre eux, c'est-à-dire le fait qu'ils les appellent vraiment successivement et que chacun doit récupérer son item façon jeu vidéo, génération PS1.
Du coup, ça avance sur son temps, ça, parce que c'est les années 80.
Alors, en fait, en termes de respect de la narration du bouquin, oui, on pourrait limite dire c'est une bonne adaptation. Voilà, hein, parce que les gens, ils aiment bien que ce soit stricto sensu. Donc, au courant, il y a aussi la force évocatrice. Ça parle de traumatisme. Ça parle des problèmes de l'enfance. Quand ils sont enfants, ils ne se rencontrent pas parce qu'ils sont amis. Hein, c'est pas des amis à qui il arrive une couille. Ce sont des enfants qui sont déjà traumatisés par des événements. Par exemple, Beverly Marsh est traumatisé par la violence de son père qui lui reproche la mort de sa mère. Il y a le gamin qui est surprotégé par sa mère parce qu'il a un peu d'asthme, sa mère qui est obèse, sa mère qui vraiment a un problème avec ça et veut absolument le protéger de tout. Et du coup, c'est un enfant qui est couvé, qui est extrêmement faible par rapport aux autres. Ils ont tous quelque chose par rapport à ça. Il y a celui qui est un petit peu gros qui du coup se fait buser parce qu'il est gros. Et ils se rencontrent plus ou moins grâce à ça, en fait. Parce qu'au final, il y a Henry Bowers qui est le personnage mais le plus important de ce bouquin, qui là, mais est relayé au second plan, il est rushé, c'est affreux, qui est la grosse brute de cette ville de Derry, c'est le white trash. C'est la preuve que Derry est une ville paumée au fin fond de l'Amérique profonde et que si tu as un minimum de cervelle, tu dois en partir. Donc, tout est centré là-dessus. Ils se rencontrent parce qu'ils se font tous pourchasser par le même mec et sa bande de connards. Et du coup, c'est ça qui va les lier. Mais concrètement, ils n'ont pas tant de rapport que ça entre eux à la base. Et du coup, vu qu'ils sont tous liés, forcément, ils ont tous cette apparition de ça. Moi, dans la vision que j'en ai, pour moi, ça n'existe pas. Bon, c'est une métaphore énorme qui est super intéressante, mais qui est surtout vraiment la projection de leur traumatisme. La solution, c'était de partir. C'était de partir, de disparaître. Sauf que du coup, la seconde partie qu'on voit là parle du réel traumatisme, en fait, qui est que si tu n'affrontes pas tes démons et si tu ne règles pas tes problèmes intérieurs, tu n'avanceras jamais. Donc, 30 ans plus tard, c'est la dépression qui commence. C'est le fait qu'ils n'ont rien accompli. Au final, on va prendre les plus principaux. Beverly Marsh, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie avec un homme violent, alors qu'elle cherchait à fuir la violence de son père. Eddie, qui, enfin justement, avait le seul truc qu'il appréciait chez sa mère, c'était le côté confort, le côté « elle est toujours là pour moi ». Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a choisi une nana forte, un peu obèse aussi, qui justement est la nana qui sera toujours là pour lui, mais qu'il n'aime pas vraiment, qui ressemble à sa mère. Ils ont tous recopié les mêmes schémas et ils se sont tous réenfermés dans leur névrose. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Revenir sur son passé, comprendre où est le problème à la source, le combattre pour avancer. Le film, pour moi, enfin, le bouquin, parle uniquement de ça. Rien de plus. Et le problème, c'est que là, pendant tout le film, on ne les développe pas. On voit le mec qui parle à sa femme, qui lui dit « je dois y aller », on voit qu'elle est un peu forte. On voit Beverly qui dit à son mec « je dois y aller », elle se prend une raclée, certes, mais c'est pas aussi développé. Bon, alors, certes, d'accord, il y a le point de vue des personnages, c'est limite écrit à la première personne, on voit tout le ressentiment qu'ils ont, on voit tous les problèmes qu'ils ont à affronter ça, et c'est écrit. Mais il y avait moyen de montrer un petit peu plus de ça, il y avait moyen de montrer beaucoup plus de leur quotidien. Celui qui était le plus débrouillard, qui leur avait appris à faire un barrage à l'époque dans les friches, est devenu architecte. Voilà, mais c'est juste... t'es montré comme ça, ces rochers à l'arrache. Et au final, toute cette thématique-là, elle est dans le film. Et elle apparaît à la fin, comme ça, histoire de reparler du fait que c'est leurs traumatismes qui sont là et qui se sont développés sous une forme beaucoup plus forte parce qu'ils ne les ont pas affrontés à l'époque. Mais vu que c'est hyper mal, c'est pour ça que je considère que ce n'est pas une catastrophe, parce que finalement, le thème est là. Mais c'est tellement mal amené, on ne comprend pas. Enfin, si on n'a pas toutes ces pistes de lecture-là, on ne comprend pas comment c'est amené. On a besoin de se triturer la tête, de capter un champ, un contre-champ qui, à un moment, va te donner l'élément. C'est pas du cinéma qui t'explique ça. Donc, je me demande à quel moment la production ou Andy Muschietti a décidé d'en avoir rien à foutre parce que eux, tout ce qu'ils voulaient filmer, c'était un clown et des monstres. Parce que là-dessus, ils s'en donnent à cœur joie. Et que, alors, je pense qu'Andy Muschietti part avec...
Si seulement c'était que des clowns et des monstres.
Oui, voilà. Mais je pense que là-dessus, Andy Muschietti...
Ça serait 2 heures les deux films et ça serait plié.
Muschietti, je pense qu'il y va avec les meilleures intentions de la Terre, parce que dans le premier, ce thème-là était très 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 bien foutu. Donc je pense qu'il a compris ce que le bouquin voulait dire, ce qu'il fallait faire. Et à partir du moment où je pense qu'il y a des personnes qui lui ont dit « Non, il faut faire du sensationnalisme avant de faire ça. » Donc je ne sais pas à quel moment ça a capoté, à quel moment on s'est dit « On va étirer le film à balles pour ajouter des éléments qui ne sont pas les bons éléments. » Mais c'est raté du coup.
Bah, après le côté mental, moi je veux bien le croire, parce que moi, à un moment je me suis dit « Bon, la fin, ils vont se réveiller en HP. » Tu voulais rajouter, Julien ?
Je pense qu'il n'est pas si mal amené que ça, mais qu'il est surtout noyé, justement, comme tu disais, dans le sensationnalisme facile qui n'était pas présent dans le premier, pour le coup. Ça, le Gripsou, là, on le voit tout de suite, très vite, tout le temps. Dans le premier, ils ont...
Ils mettent du temps à le matérialiser.
Tout à fait. Enfin, non, tu le vois, tu le vois oui, dès la séquence.
En fait, tu le vois et en plus, il est suggéré jusqu'à réexister, jusqu'à ce qu'ils soient incarnés quand ils sont tous ensemble, en fait.
Disons que dans le premier, ils ont vraiment pris le temps de monter la sauce et l'angoisse autour du personnage et de n'en faire qu'un élément secondaire du film, contrairement au deuxième où, il y en a plus que pour lui et les personnages, le reste des personnages sont assez rushés. En comparaison, je précise, hein, il fait 2h50 le film.
Oui, alors parce que c'est fait pour que les deux films ensemble fassent 5h04. Voilà, donc bon courage à la personne qui veut se faire les 5h04 de film. Hein.
Mais c'est vrai qu'en soi, par contre, en effet, les passages avec Ripsou, moi je me suis éclaté. Je me suis marré, j'ai trouvé que c'était... Skarsgård, on ne le voit quasiment plus, puisqu'il est noyé sous le CGI. C'est dommage, il y a un côté effet un peu plus synthétique qui était sympathique dans le premier qu'il a, et totalement inexistant. Par contre, en termes de direction artistique, de choix, de monstres, le bestiaire est génial. Là-dessus... Muschietti fait exactement ce qu'il faisait sur le premier, il se lâche, il sait le montrer, Alors autant ne pas se gêner. Voilà, c'est dommage que le reste soit raté parce qu'il avait manqué un équilibre en fait.
Non, c'est ça, il y a un gros travail de CGI. Même tout n'est pas en CGI. Par exemple, le faux sang, par exemple, c'est Jessica Chastain a vraiment pataugé dans du faux sang.
Oui, c'est pas étonnant, ça.
Hein, voilà. Même les gamins qui ont été rajeunis esthétiquement, parce que bon, c'est quand même tourné 2 ans après le chapitre 1, donc les scènes avec les gamins qui ont été tournées, ben, il fallait arranger parce qu'en 2 ans, on grandit, quoi. Surtout à cet âge-là, on change beaucoup. Bon. Ça passe plutôt bien.
Oui, ça passe très bien.
Hein,
oui.
Voilà. Non, c'est vraiment, c'est pas un problème technique.
Non, techniquement, il n'y a rien à redire. Hein.
Alors là, du coup, on spoilait de toute façon. Moi, ce que je reviens sur la thématique justement du traumatisme, parce que le moment où je me suis dit, c'est bon, ils vont vraiment là-dedans, et c'est dommage qu'ils l'amènent que maintenant et que ce soit juste mis à la fin pour conclure le truc et nous faire, au fait, c'était ça. Mais vu que tu le suis pas depuis le début, tu t'en fous. C'est, on a quand même Gripsou qui les félicite à la fin d'avoir réussi. Mmh. Voilà. Ils l'appellent ça. Ils n'ont pas de nom sur ce que c'est, parce que ça n'a pas de nom, parce que ça n'existe pas. Mais voilà, mais on a quand même, voilà, une fois de plus, Gripsou les félicite de réussir à vaincre ces peurs-là, de réussir à avancer, d'aller de l'avant. Et après, ils nous font une morale en voix off sur justement le fait qu'il est temps d'aller de l'avant.
Avec la belle musique.
Alors,
qu'on a détestée pendant tout le film.
Ah non, mais la musique, elle est fonctionnelle. La plupart du temps, il n'y en a pas. Et elle apparaît qu'à des moments clés. Et alors, ça accentue tellement mal.
C'est ça, à un moment j'entends la musique qui fait ta ta ta. Alors du coup moi je comprenais pas parce que la scène n'était pas particulièrement intrigante ou choquante ou quoi. Donc je me tournais vers mes deux collègues qui avaient vu le premier épouse et je me dis là on doit avoir peur, il y a un truc qui fait peur là, qu'est-ce que... Non non, ah bon d'accord.
Et non, la musique aux fraises est pas subtile mais... Enfin Hans Zimmer c'est la subtilité incarnée comparée. Hein. Non.
Non, c'est Benjamin Wolfish qui a fait ça. Voilà.
J'ai eu peur.
Dernière chose, si l'idée c'était de mettre en avant l'allégorie de la peur en faisant de ça une créature qui n'existe pas vraiment en fait, pourquoi le délire autour du trip amérindien et de la quête initiatique? Ça, j'ai toujours pas compris, je comprends pas.
Parce qu'il y a toujours des Amérindiens dans un truc de Stephen King, non? C'est ça? Il n'y a pas toujours un Amérindien?
Ah, je l'ai plus vu comme le côté... Alors après, oui, sûrement, même au final, ça me donne sûrement tort et ça existe peut-être. King le voit comme il veut, peut-être que lui, il y croit. Mais moi, j'ai plus vu comme le côté, le besoin absolu de chercher une réponse à ce qu'on ne comprend pas. Et vu qu'ils ont tous un traumatisme qu'ils ont réussi à incarner, pour eux, ça existe. Donc ils ont besoin de trouver une réponse, et la preuve, puisqu'ils ont quand même le passage où on leur fait « c'est de la connerie votre truc, hein, ça marche pas hein. ». C'est quand même dit en plein milieu, quoi, que votre truc, en fait, il marche pas. Vous avez fait ça pour rien, les gars, puisque la réponse, elle est en vous. Donc pour moi, c'est un peu ça, c'est le besoin de chercher une réponse dans le passé, parce qu'on veut se persuader qu'il y a une légende autour de ce truc, et qu'il y a forcément un monstre, que c'est pas nous, quoi, le monstre.
On n'est pas dans le roi Stephen, on va pas en parler pendant 3h30.
Ouais.
C'était ça. Merci Julien de nous avoir accompagnés pour aller voir ça.
Merci à toi, ou pas. Je sais pas, je sais plus.
Ah, mais tu nous as soutenu dans cette épreuve, donc je te remercie chaleureusement. Thierry, la semaine continue pour nous, parce que pendant que tu n'étais pas là, il y avait un autre film très attendu, le film de Clapiche, de moi, et on en parle tout de suite.
Bonjour.
Bonjour. J'ai un problème de sommeil.
J'ai un problème de sommeil en ce moment.
Est-ce que j'ai un sommeil, je dors tout le temps?
Je dors pas bien du tout.
La position dans laquelle vous vous sentez le mieux, c'est la position de leader, de suiveur?
D'accord. C'est une question.
Vous vous dites que c'était une vraie rencontre?
Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre?
Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro?
Une dépression?
Peut-être.
Mon très cher Thomas, je crois que ma soif cinématographique ne tarira jamais. Pourquoi? Parce que alors que j'allais me taper des avant-premières à Deauville de films que vous ferez tout seul et que j'allais me les voir dans mon coin, j'étais quand même jaloux de me dire que vous alliez voir le Clapiche et pas moi. Alors que pourtant ma semaine était quand même sacrément occupée. 2 mois de Cédric Clapiche, son nouveau film, qu'il a fait après Ce qui nous lie, un beau film sur la famille dans les vignerons français, avec Anna Girardeau, deuxième collaboration donc du coup pour elle et le réalisateur, et avec François Civil, qu'on a déjà vu quand même pas mal cette année, entre le très bon Le Chant du Loup, l'excellent Mon Inconnu, on l'a vu également dans celle que vous croyez. Et donc, il est là dans 2 mois. Thomas, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu le sujet de ce film ?
Le sujet de 2 mois, c'est la solitude, finalement, dans les grandes villes. On a François Civil et Anna Girardot qui sont voisins. En fait, ils habitent mais au même étage, dans 2 immeubles différents, mais leurs fenêtres et le balcon sont juste à côté. C'est juste qu'ils ne sont pas dans leur champ de vision, donc ils ne se voient pas. Et tous les matins, ils descendent en même temps, ils vont à la même pharmacie, ils vont au même supermarché, ils vont au même truc, mais ils ne se voient pas. Et en fait, ils vont se tourner autour et ce sont 2 personnes seules, ce sont 2 trentenaires seuls. Et qui vont essayer de se sortir de la solitude, qui vont essayer de faire des rencontres ou autre, mais avec les réseaux sociaux par exemple aussi. Anna Girardot, son personnage, va essayer Tinder et autres pour trouver des mecs, ça marche pas des masses. Hein, voilà. Et ils vont chez le psy aussi, donc chacun a son psy. François Civil va chez François Berléand par exemple. Et on a pour l'autre personnage, on a Camille Cotin qui fait la psy, qui nous sort aussi des phrases toutes faites de psy qui font mourir de rire la salle, parce que ça tombe à propos. C'est une comédie charmante sur la solitude et sur la difficulté à se rencontrer alors qu'on est dans des grandes villes, on est à Paris. Alors ça se passe à Paris bien sûr, mais malgré tous les réseaux sociaux qu'on a, malgré l'ultra-connexion, malgré le fait qu'on soit très nombreux sur un petit espace, on est quand même très seul. Et alors, donc, tu me diras, c'est un sujet très triste. Eh bien, pas tant que ça. C'est vrai qu'il y a une petite sensibilité. C'est une douce comédie. C'est-à-dire qu'on rit de temps en temps. Certaines situations qui sont assez illogiques. Le souci, c'est que la bande-annonce a un peu tout montré. Ça, comme beaucoup, mais elle dévoile pas tant l'intrigue. En fait, le but du jeu, l'intrigue principale, l'intrigue, si c'est vraiment une intrigue, c'est que on va voir le quotidien de ces 2 personnages-là, leur évolution. Ils vont évoluer d'ailleurs, ils ont chacun leur vie qui avance, mais en fait, c'est chaque fois on va les voir se croiser et on va se dire est-ce que là, est-ce qu'ils vont se voir ? Est-ce qu'ils vont seulement se voir ? Et chaque fois, il y en a un qui va tourner la tête, mais il y a un truc, du coup, il tourne la tête et il se voit plus. Et ça m'a fait penser un peu... on en parlait l'autre jour, je sais plus à quelle occasion, on parlait des Demoiselles de Rochefort, où il y a 2 personnages qui sont amoureux et qui savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre et qui vont se rater pendant tout le film. C'est affreux. Ah, la seule différence, c'est qu'eux, ils savent qu'ils se cherchent mutuellement. Donc, c'est encore plus tragique. Là, ils savent pas qu'ils existent. C'est-à-dire qu'ils vivent à côté, ils ont des goûts similaires. À un moment, Anna Girardot écoute de la musique dans sa salle de bain, et donc l'autre l'entend, et du coup, il va télécharger le morceau. Et du coup, une fois que l'autre a fini son bain, elle coupe sa musique, et donc l'autre va mettre le morceau qu'il vient de télécharger, et un peu fort, du coup, elle va l'entendre résonner dans le... Et on se dit, mais c'est vachement bien. Et puis ça va pas plus loin, parce que dans la vraie vie, ça va pas forcément plus loin, en fait. On se dit, mais on a envie que ça aille plus loin, on a envie qu'il fasse le petit truc, le petit pas en plus pour se rencontrer.
Hop.
Oui, alors il y a un chien qui est en train de prendre les affaires que Thierry a laissé traîner par terre, voilà. Donc, je disais, il y a des petits points communs, parce qu'ils sont à 2 doigts de se croiser, ils sont à 2 doigts de se voir, ils sont à 2 doigts... Il manquerait le petit truc en plus pour qu'ils se croisent et qu'ils se parlent, il manque le petit quelque chose, mais on a envie, hein. Mais alors que dans la vraie vie, on le fait pas, ce petit truc en plus. Et donc en fait, non, c'est tout à fait logique. Et c'est ça c'est le réalisme qui plaît dans cette comédie. Voilà. Alors, c'est pas la comédie de l'année, hein, on va se calmer. Mais c'est agréable, c'est une douceur, tu vois. Je suis content de l'avoir vu juste avant ça. Parce que comme ça, j'ai pas l'impression d'avoir perdu ma journée.
Parce que c'était sûrement beaucoup moins long également.
C'était beaucoup moins long, j'ai pas regardé, mais ouais, non, ça fait pas 2h30. Non, c'est ça, c'est qu'on le voit, on voit pas passer.
et c'est très agréable. Et en plus, bon voilà, alors les intrigues séparées de l'un et de l'autre, bon, ça aurait été, pas été très intéressant s'il y avait ce jeu de chat et la souris qui vient par-dessus. Mais pareil, on a tout, il y a une évolution de personnage, tout est bien, tout est propre, hein, c'est sympathique. Bon, la comédie, c'est juste par touche, alors on peut trouver que par moments, c'est peut-être, il y a peut-être des ventres mous de temps en temps sur le rythme, mais dans l'ensemble, non, c'est très agréable à regarder et à vivre avec eux, quoi. C'est ces petites tranches de vie. Comme ça. Il y a un côté tati aussi. C'est, je pense à mon oncle par exemple, où on voyait la modernité. Ben là, on a le, ben c'est aujourd'hui quoi. Aujourd'hui, c'est donc c'est un beau portrait, c'est une belle tranche de vie des trentenaires parisiens.
Deux mois de Cédric Clapiche. Une belle tranche de vie, donc du coup une comédie légère, bien qu'un peu mélancolique sur le fond du sujet. On vous la recommande et on passe à la suite.
On passe à la suite avec un film qui sort le mercredi prochain, le 18, le nouveau Woody Allen.
She's apparently onto a very big story. She takes her job very seriously.
Hello, can I help you?
Oh my god, you're Francisco Vega.
Is that good or bad?
Hey, Ashley.
I can't talk to you right now.
What could possibly be so secretive about that?
Unless there's some funny business going on.
Unless there's some funny business going on. Real life.
Real life is fine for people who can't do any better.
This must be one tiny little lousy hour interview. Instead, we lost the whole weekend.
I shouldn't imbibe so copiously. I become passionate, aggressive, absurd. I just...
J'ai vu tous les grands classiques américains, surtout les européens. Et mon préféré, c'est Kurosawa. Gros, gros, gros dialogue. On est en extérieur. Il fait couvert, mais il ne pleut pas. Et puis on est à Paris. Bon, du coup, c'est pas vraiment un jour de pluie à New York. Un jour de pluie à New York de Woody Allen. Avec Timothée Chalamet. Hera est en train de sauter dans tous les sens. Et Elle Fanning. Là, c'est moi qui saute un peu dans tous les sens. Et notamment Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liv Schreiber. Un casting plutôt sympa. Et pour parler de ce jour de pluie à New York, avec moi à Paris, Hera, salut Hera.
Salut Thomas.
Et Sophie, salut Sophie.
Salut Thomas.
Un jour de pluie à New York de Woody Allen. Alors Woody Allen qui a essuyé un lever non pas de parapluie mais de bouclier après l'affaire MeToo. Donc son film n'est pas sorti aux États-Unis à cause des scandales sexuels qui le concernent. Ici on ne va pas parler de ça. On va parler de ce qu'il y a à l'écran et on va s'en tenir là, voilà. Un jour de pluie à New York, on prend l'impair, on sort, on y va.
Allez, allons sous la pluie. Donc c'est une histoire originale de Woody Allen qui parle d'un artiste maudit, romantique, complètement mélancolique et triste, joué par Timothée Chalamet, qui part en week-end à New York avec sa copine. Donc une petite nénette journaliste de sa fac, de Upstate, de Yardley, la fac, donc un peu au-dessus de New York. Donc ils vont pour un petit week-end en amoureux parce qu'elle doit interviewer un grand réalisateur américain. Donc elle est tout en joie pour la Gazette de l'université. Et donc évidemment, s'en suivent péripéties, quiproquos, séparations, ça va dans tous les sens. C'est... tout ce que Woody Allen a fait toujours de plus classique, donc toujours avec une écriture qui est merveilleuse, un film extrêmement bavard, très joliment mis en scène, où tout s'enfile de manière extrêmement logique, on va comprendre tous les ressorts un peu en avance, quand même, on va soupçonner ce qui se passe ensuite, mais où on passe quand même un moment très agréable et très doux, et évidemment toujours porté par du jazz.
Ah, c'est Woody Allen, il y a toujours du jazz.
Ah oui, ça c'est clair.
Sophie, emballée.
Alors pas au début, pas au début du tout, enfin au début, enfin disons avant de voir le film et puis après au tout début du film parce que je me disais que j'allais revoir le énième même film de Woody Allen, ce qui n'est pas faux, hein, on va pas se mentir, mais en fait je me suis complètement laissée porter par le truc, si ce n'est... quand même, j'ai pas trouvé le jeu d'acteur de certains hyper convaincant. Enfin voilà, en gros, je pense que Timothée Chalamet a un peu porté beaucoup de monde dans ce... Enfin, au moins 2-3 personnes dans ce film. Donc, voilà. J'ai pas été convaincue par Elle Fanning, par exemple. Enfin, je trouvais que c'était trop... Enfin, ils étaient tous un peu trop dans la caricature, mais... Je sais pas, après, c'est une appréciation personnelle.
Donc pas convaincue par Elle Fanning, mais Chalamet donc fait le taf. Tu dis ça aussi pour Selena Gomez qui passe assez beaucoup de temps avec lui. Ah, Hera me dit, elle est bien.
Elle est bien, Selena Gomez, justement. C'est le petit personnage très sympa qui est très bien joué. Moi, c'est marrant parce que justement, moi, Timothée Chalamet, j'ai eu un peu plus de mal. Parce que j'ai l'impression de voir Woody Allen au début quand il jouait dans ses propres films. Donc j'ai l'impression de voir le vieil homme qui est Woody Allen avec son dos courbé et son côté ultra cynique. Mais dans le corps d'un Timothée Chalamet qui est tout charmant avec ses petits yeux bleus et tout choupinou, ça colle pas forcément toujours. Et du côté de Elle Fanning, je pense aussi que c'est son rôle qui est un peu dur, c'est qu'elle joue vraiment cette fille qui, dans l'excitation de ce qu'elle est en train de vivre, va oublier toute contenance et qui va être parfois un peu. Ça m'embête de dire qu'elle est stupide parce que. Ce serait pas le bon terme, mais elle est un peu un peu bêta, mais je trouve pas un mot.
C'est une bouseuse, elle joue une plouque, elle joue quelqu'un du fond de la campagne, quelqu'un qui n'a pas eu l'éducation du personnage de Chalamet. En fait, il y en a un qui a été éduqué de force et du coup qui a une culture très profonde et très subtile et tout ce que tu veux, et l'autre, on en a une qui arrive du fin fond de l'Arizona et justement qui a pas les références. Et bah si, elle est un peu... en plus de pas avoir la culture, il y a des moments quand même, elle est un peu naïve par moments. Parce que quand même, elle va enchaîner les mecs qui vont vouloir se la faire pendant tout le film. Il y a que à la fin qu'elle se dit « Ah ouais, peut-être qu'il a peut-être envie de coucher avec moi, quoi. »
Ouais, c'est ça, elle est crédule, elle est vraiment crédule. Elle est vraiment aérienne, complètement dans son monde, donc... Je pense que c'est le personnage qui peut desservir le jeu potentiellement, mais pas le jeu d'acteur. Je trouve que ça allait encore. Mais à côté, Selena Gomez, qui joue donc le personnage qui va... qui est la petite sœur d'une ex du personnage de Timothée Chalamet, qui s'appelle Gatsby quand même.
Oui, voilà. C'est un joueur, c'est un mondain, voilà. Il s'appelle Gatsby.
Il s'appelle Gatsby. C'est drôle. Ouais, Selena Gomez donc, va être cette petite bulle d'originalité dans la vie de Timothée Chalamet qui justement va le sortir un peu de son snobisme, de son côté ultra poète, toujours perché, toujours en train de donner des phrases chaloupées. Elle va être très cash, elle va y aller, elle va donner les infos directement et elle va être beaucoup plus terre à terre et elle vient créer un contraste qui est super intéressant dans leur dynamique et dans la dynamique du coup du couple de Timothée, enfin de Timothée Chalamet et Elle Fanning, enfin de leur personnage. Et elle, Selena Gomez, je la connaissais à ses tout débuts, comme tout le monde, et c'était pas terrible, enfin, je trouvais ça pas fou. Et quand j'ai commencé à la voir dans des films un peu plus récemment, dans ce qu'elle joue maintenant, je trouve que ce qu'elle propose est chouette, quoi. Dans son énergie et tout ça, dans ce qu'elle donne, moi je trouve qu'elle est très bien, cette fille.
Moi, elle m'a toujours pas convaincu. Alors après, la dernière fois que je l'ai vue, c'était dans le film de zombies, dans le Gingermush, justement. Je ne sais même plus comment il s'appelle, tellement ce film est lambda et oubliable. The Dead Don't Die.
The Dead Don't Die, ouais,
voilà. Où elle a un rôle anecdotique dans un film anecdotique. Enfin, bon, bref.
On parle de Jarmusch ou on parle de...
Non, on parle d'Alain, qui, justement, lui, c'est au cordeau. C'est très fin. Il y a une performance d'acteur. Il s'appuie énormément sur les acteurs parce qu'il y a énormément de plans, séquences, de dialogues. Des dialogues très fins. Bon, c'est un film de dialogue, hein, clairement. Il n'y a que ça carrément. Et donc, c'est subtil, hein, il y avait des vannes, on a rigolé énormément. Enfin, on a ri parce que voilà, c'était très subtil, c'était très bien écrit, c'était brillant. Et là, à mon avis, c'est pas du genre à dire à tes acteurs « Vas-y, je pose la caméra, t'improvises ».
Ouais,
à mon avis, c'est pas le style du bonhomme.
Non, non, c'est millimétré, c'est extrêmement bien écrit, c'est toujours très, très poétique. C'est ça, en fait, qui a toujours été un des grands talents d'Allen. C'est vraiment son écrit.
Et le sens de la formule.
Ouais. Parfois, j'ai l'impression que c'est, pour certains, c'est trop écrit. C'est que vraiment, enfin, j'avais l'impression, dans certaines scènes, que certains n'arrivaient pas à se détacher du texte.
Ah ouais.
Oui, c'est cette difficulté-là, mais en même temps, là où son écriture est bonne, c'est que j'ai pas l'impression d'écouter un bouquin.
Oui, c'est clair.
En fait, parce qu'il y a des films qui sont très écrits, et à la limite, je préfère que ça soit trop écrit que improvisé n'importe comment et que ça soit lambda. Là, c'est très écrit, on sent qu'il y a le sens de la formule a été étudiée pour faire mouche. Mais justement, c'est un truc qui est naturel. La nana un peu con-con qui te dit que. Elle a regardé tous les grands classiques américains, surtout les européens, que son préféré c'est Kurosawa. Des gens comme ça, on en croise.
C'est clair.
Par contre, après, à sa décharge, elle a quand même une bonne vanne, c'est celle avec où elle a enchaîné Rodko.
Elle dit, non mais vous êtes un grand artiste, vous êtes comme...
Attends, la fin la dernière c'était Virginia Woolf, il y avait Rodko et...
Van Gogh.
Van Gogh.
Sauf qu'ils sont tous les trois suicidés, donc c'est ça qui est génial.
Ah ouais.
Elle a sa boule de cristal aussi, c'est bien.
Donc ça fait aussi pas mal de gaffes. Donc non seulement elle a pas le bagage culturel de son petit ami, mais en plus elle est gaffeuse. Voilà.
C'est ça, c'est clair. Après, je pense que ce que tu disais par rapport au dialogue et cette subtilité-là et ce niveau-là d'écriture, c'est que Woody Allen continue de nous proposer... en 2019, donc dans nos années, des textes typiques des années 50. Et c'est ça qui garde cet effet où ça reste donc des textes type années 50-60, une mise en scène de ce type-là aussi et du jazz, enfin une ambiance. Parce que dans ce film, ils sont habillés avec veste en tweed, un père, gros pull. Qui, moi, au début, je me disais, mais en fait, c'est un truc des années 70, par là.
Jusqu'à ce qu'il y ait un téléphone qui sonne.
Ouais, voilà. Après, il y a le Mac et le téléphone iPhone qui sonne. Je fais, ah. Même, ils arrivent à New York. Le premier truc que tu vois, c'est un magasin Converse. Tu fais, ah non, en fait, c'est notre époque. Donc là-dessus, OK, mais on dirait pas du tout. Donc, il a ce côté, je te transporte dans le cinéma du passé. Mais en te mettant cet esprit-là dans le présent, et ça passe aussi par l'écriture. Et c'est pour ça que ça passe autant bien, c'est qu'on a l'impression de voir un vieux film, mais avec des images de maintenant.
Alors c'est marrant que tu dises ça, parce que la note d'intention du film, voilà, dans les 2-3 trucs que j'ai pu fouiller, c'était qu'il avait l'intention de réaliser une comédie sentimentale à la manière de l'âge d'or d'Hollywood.
Bah voilà, bah hey, c'est réussi.
Sophie, un truc à rajouter ?
Non, je crois qu'on a tout dit.
On a tout dit, on est bien, hein.
Ouais.
On est pas mal. Bon, Woody Allen fait toujours la même chose, ça on le sait, comme beaucoup de réalisateurs. À la différence que lui, il a le bon goût de faire des films d'une heure et demie.
Ce qui fait qu'on passe un plutôt bon moment. Et quand on est fan de l'écriture, si c'est ça qui importe pour le film, on passe vraiment un super instant. C'est sûr que quand t'as un attrait plus qui est poussé sur la mise en scène, l'image, c'est peut-être pas là que tu trouveras ton compte. Par contre, si t'aimes quand c'est bien écrit, grande ambiance.
Oui, parce que là, la caméra peut pas faire des loopings, là.
Non, voilà, y a rien de nouveau, y a rien de spécial. C'est toujours bien placé, bien mis en scène. Les travelling, on le sent limite, on sent la présence de la caméra sur le plateau, on le voit, on voit le fond vert. Hein.
On sent la mandarine.
On sent l'effet nocturne en pleine journée. Je sais plus comment on appelle ça, mince. Bon.
La nuit américaine.
Voilà, exactement. Merci. La nuit américaine. On voit tout. On voit tout, mais ça reste. Ça reste très agréable, parce que c'est bien fait.
Puis les beaux hôtels, les beaux lieux, le côté carte postale, évidemment. Hein.
Bien sûr.
Putain, et Jude Law, je l'avais pas reconnu au début.
Non plus. Là, c'est quand t'as dit à la fin qu'il y avait Jude Law.
J'ai fait, oh putain, mais c'est Jude Law. Sophie, je lui ai dit au bout d'un moment, mais Jude Law, on le reconnaît pas, parce qu'en fait, au début, il a des lunettes, et il a les reflets des lunettes. En plus, il a les cheveux longs, et on voit pas vraiment son visage. Et les lunettes, il y a des reflets sur les lunettes, donc en fait, on ne voit que le bas du visage. Mm-hmm. Et c'est après, quand il monte en bagnole avec Elle Fanning, et que du coup on le voit en gros plan, et qu'il n'y a plus le reflet, on fait « Ah mais merde, mais c'est Jude Law !»
Tu sais, moi, Jude Law fait partie de ces acteurs que j'arrive pas à reconnaître. Il y en a quelques-uns comme ça, et Jude Law en fait partie. Lui, voilà, je j'arrive pas à le reconnaître. Là, tu vois, heureusement, c'est quand t'as pris le micro et que t'as dit le casting, que j'ai fait « Mais oui, c'est vrai !»
Un jour de pluie à New York, a rainy day in New York. On est un peu en avance, ça sort le 18 septembre 2019, la semaine prochaine, si vous nous écoutez au moment où on sort l'épisode, et sinon, ben, vous l'aurez en VOD, hein, comme tout le monde. Merci Ira.
Merci Thomas.
Merci Sophie.
Merci Thomas.
C'était notre avis sur le dernier film de Woody Allen. Toi Thierry, Tu l'as vu à Deauville. Ouais. Tu ne l'as pas vu avec nous directement, tu étais à Deauville. Qu'est-ce que tu en avais pensé, toi, en quelques mots, hein?
Moi, j'ai été très déçu. J'ai trouvé que c'était une nouvelle repompée de sa recette que j'apprécie toujours parce que je trouve qu'elle est assez efficace. Et là, je l'ai trouvée plutôt mal écrite. Je l'ai trouvée mal dirigée. J'ai l'impression que la nouvelle génération d'Hollywood n'arrive pas à se caler sur le rythme et le verbe Woody Allen. Du coup, j'ai trouvé que ça collait pas, que c'était toujours hors du ton et que ça avait dû être fait dans des conditions un peu automatiques, en fait. Chose qu'il a souvent fait. De toute façon, Woody Allen a toujours fait des films un peu mineurs, un peu moins bien, mais là, c'était un peu le bas du panier. Voilà.
Ouais, alors, on a été d'accord sur le côté vieille recette, mais justement, c'est toujours une bonne recette, en fait. Donc ça marche. Moi, je trouve que ça marche, même si c'est pas son meilleur film et que ça reste ordinaire. Enfin, bon, bref. On vient d'en parler pendant 10 minutes, hein, c'est bon, on va pas en rajouter. Bien, donc, on l'a dit, tu arrives directement de Deauville. Alors, Deauville, c'était le festival américain, hein, du film américain de Deauville, du 6 au 14 septembre 2019. Tu as vu une trentaine de films à peu près, hein,
c'est ça.
Hein, c'est ça. Bon, t'es parti avant l'avant-première de Angry Birds 2.
Je suis surtout parti avant l'avant-première de Cuban Network, le nouveau film d'Olivia Sayas, mais qu'il compte de toute manière remonter, puisqu'il n'était pas satisfait de cette version-là. Donc en soi, c'est pas grave.
C'est pas grave, grave. Alors, quels sont les films qui t'ont marqué, en bien ou en mal?
Alors, il y a beaucoup de choses, donc je vais peut-être expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, il y a la sélection officielle, donc les films qui sont en compétition, on va revenir dessus. Dedans, j'ai eu quand même pas mal de trucs qui m'ont plu. La compétition, j'ai trouvé que c'était quand même d'une qualité assez bonne. En général, il y a quand même des films que j'ai vraiment pas aimés, mais il y en a peut-être deux, voire trois, ce qui n'est pas non plus mauvais sur 14. Il n'y a qu'un seul film que je n'ai pas vu. C'était Port Authority qui me tentait énormément, mais que malheureusement le planning a fait que je n'ai pas pu le voir. Dans les films qui m'ont marqué, il y a l'un des premiers films que j'ai vu qui était Skin de Guy Native, qui est un film sur un suprémaciste blanc qui est joué par Jimmy Bell qui a pris une masse de malades, qui a la gueule totalement tatouée et compagnie, et Jimmy Bell qui joue donc un suprémaciste blanc qui veut sortir de ce milieu, mais on te montre en fait que c'est un milieu dans lequel il a constamment été bercé, et un milieu qu'il aime, mais au final qu'il a recueilli, qui lui a donné de l'affection, et en fait c'est mis en parallèle avec un jeune homme qui va rentrer dans cette communauté parce qu'il va être attiré, parce qu'il est un petit peu faible, parce qu'il n'a pas à manger, parce qu'il est seul et abandonné, et du coup on voit le gars qui se fait endoctriner au fur et à mesure pendant que lui en sort, et on comprend aussi pourquoi quand il dit mais c'est ma famille, c'est des gens que j'aime, j'ai besoin d'eux, on comprend ça, et donc le film est passé en deux parties, donc les passages extrêmement violents dont il s'extirpe au fur et à mesure, et la manière dont les répercussions vont se retourner contre lui. Et les passages où on respire sont les retraits progressifs de ses tatouages. Ça a duré 2 ans, c'est une histoire vraie. Ça, c'était un super film. J'ai eu la chance d'interviewer le réalisateur qui m'a raconté des trucs vraiment énormes. Je t'en parlerai après, mais allez lire l'interview, on la mettra en lien. C'était superbe. Voilà, j'ai beaucoup aimé Swallow. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait beaucoup de parité dans la sélection, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de réalisatrices et du coup beaucoup d'histoires de femmes très fortes. Et ça faisait du bien. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que des fois, quand on se pose des questions, quand on regarde des films et qu'on se dit qu'on ne comprend pas les choix des femmes par rapport à le fait qu'elles restent dans des relations toxiques, les films parlaient, il y avait beaucoup de films dont la thématique, c'était ça. Comment s'extirper d'une relation toxique quand le monde entier te dit que de toute façon, c'est normal, t'es une femme, c'est ta condition. Donc là-dessus, je pense à Swallow, qui est l'histoire d'une nana seule, femme au foyer, qui va se trouver une passion sur le fait d'avaler des choses, qui va se mettre à avaler des choses de plus en plus improbable, et on va se rendre compte qu'il y a un traumatisme, qu'il y a quelque chose, un abcès à crever. C'était super intéressant. Il y avait aussi Mickey and the Bear sur une jeune nana qui s'occupe de son père vétéran de la guerre en Irak, totalement alcoolique et qui pense qu'elle a des responsabilités envers lui et qui refuse de vivre sa vie et qui va s'en sortir peu à peu. C'était passionnant. Et d'ailleurs, il y a le film qui a gagné 3 prix qui parle aussi de ça, qui était Bull, que j'ai pas aimé pour le coup.
Alors justement, quel est le palmarès? Est-ce que tu peux nous faire un petit commentaire comme ça à chaud du palmarès du Festival du film de Deauville de cette année, de ce cru 2019?
Alors donc le palmarès, il y a le film dont je viens de parler à l'instant, Bull, qui a gagné le prix de la critique, le prix de la révélation et le grand prix.
Quelques mots sur ce film.
Quelques mots sur ce film, c'est l'histoire d'une jeune fille en pleine adolescence qui tombe plus ou moins dans, dans une sorte de délinquance forcée puisque sa mère est en prison, elle n'a pas de repère, elle est un peu perdue et qui va trouver un passe-temps au final dans le rodéo. Par un gars au début qu'elle vandalise en fait et qui va l'entraîner là-dedans et elle va apprendre voilà justement à se calmer, à se découvrir, à s'affirmer grâce à ça. Voilà, moi j'ai trouvé que le film était intéressant dans le fond mais fastidieux dans la forme, c'est très lent et je suis assez agacé du fait qu'il ait eu 3 prix quand même. Et ils ont fait un prix spécial pour le 45e anniversaire du festival et c'est Swallow dont j'ai parlé juste avant qu'il a eu. J'étais assez content. Le prix du jury a été attribué à The Climb. The Climb qui est une comédie qui partait très très bien. En gros le pitch c'est deux personnes qui sont sur un vélo en train de monter une pente en France. Et alors que le gars lui demande au fait est-ce que tu veux être mon témoin de mariage, le fait qu'il fait écoute faut que je te parle d'un truc, en fait je couche avec ta femme. C'est très 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 drôle. Et au début c'est plein de situations, ça fait énormément penser à du frère Cohen tout le temps, même dans la forme visuelle. Et le problème c'est qu'après c'est chapitré. Et après les deux premiers chapitres sont très courts. Ça devient lourd et chiant.
Et les mecs ils montent à vélo, ils sont sur une pente
non,
à vélo.
C'est juste le premier chapitre où ils sont sur une pente à vélo. Voilà, ça démarre comme ça. Et c'était l'affiche du film, donc du coup on pourrait penser que ça parle de ça, mais pas que. Ça parle en gros de l'amitié entre deux personnes qui passent leur temps à s'éloigner, revenir. Il y en a un qui est odieux avec l'autre parce qu'il considère que quand il fait pas les bons choix, autant le pourrir jusqu'au bout, quoi. Mais c'est de l'amitié qui n'arrive pas à s'affirmer comme amitié, des gens qui n'osent pas dire qu'ils s'aiment. Voilà, le fond c'est ça, mais ça devient vite très très chiant, même si factuellement c'est quasiment un ensemble de plans séquences qui sont mais virtuoses à souhait. Donc ça aurait été cool que ce soit au service de quelque chose de bien mieux. Il y a un de mes films préférés qui a eu le deuxième prix du jury, puisqu'ils ont mis un deuxième prix du jury, qui est The Lighthouse de Roger Eggers. Je pense que celui-là on va l'avoir en France.
Avec Robert Pattinson.
Avec Robert Pattinson et Willem Dafoe. Le pitch c'est ça, c'est Willem Dafoe et Robert Pattinson sont dans un phare isolé du monde et ils vont devenir peu à peu un peu fous. Voilà, c'est que ça, c'est une expérience de folie humaine, on est pris en otage, c'est suffocant, en plus c'est le film est en noir et blanc, en 4 tiers, c'est suffocant, c'est génialissime. Ces deux acteurs qui sont mais au maximum de leur performance, c'est incroyable.
Par contre, je crois que ça n'a pas plu à tout le monde.
Il a été totalement hué. Il y a deux films qui ont une standing ovation, on en parlera après parce qu'ils font pas partie de la sélection. Et celui-là a été hué. On n'a pas compris parce que autant tu peux ne pas apprécier un film, de là à le huer alors que c'est une vraie proposition de cinéma, que le fond du film n'est pas nauséabond à souhait, il n'y a pas de message horrible qui passe. Ouais, c'était assez incompréhensible. Après, c'est un film très radical. Je peux comprendre qu'il divise dans la forme. C'est très suffocant. Ça ne méritait pas ça. Mais bon, il a eu le deuxième prix du jury. Et le prix du public, c'est The Peanut Butter Falcon, qui est une comédie avec Monsieur Shia LaBeouf. Voilà, ça faisait plaisir de revoir Shia LaBeouf. Sur un jeune homme, un jeune trisomique, qui s'enfuit de son centre d'accueil, enfin de son centre de soins, parce que son rêve, c'est de devenir catcheur professionnel. Et il va tomber sur un redneck qui, au final, qui est joué par Shia LaBeouf, qui est passionnant parce que c'est un gars qui, clairement, lui dit « Je te traiterai jamais comme un handicapé ». Donc au début, le challenge, en mode « Je m'en fous que t'es ça, on y va ». Et c'est un road trip. C'est un road trip sur l'amitié qui est super beau, très drôle aussi. Et c'était quasiment sûr, quand on est sorti de là, on s'est dit ça aura plu du public parce que ça a plu à tout le monde. C'est facile, on va dire, mais c'est super plaisant. C'est pour la sélection, ça c'est pour la compétition. Donc après, il y a eu beaucoup de premières. On a eu des premières, par exemple des premières qui sont assez évidentes qu'on va avoir, le Woody Allen, comme on en a parlé. Il y a eu le...
T'as vu aussi, je crois, un film qui est sorti cette semaine, Music of Your Life.
Voilà, il y avait Music of My Life.
Music of My Life, oui.
Pardon. En avant-première mardi.
Qui est sorti cette semaine. Hein.
Voilà, qui est sorti cette semaine. Il y avait le...
C'est comment ?
C'est pas terrible. Si tu aimes Bruce Springsteen, c'est une énorme lettre d'amour à Springsteen. Ça met très 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 bien en scène les paroles du gars. Ça montre que c'est un parolier fantastique. C'est voilà l'histoire d'un jeune homme pakistanais, enfin d'origine pakistanaise, parce que lui je pense qu'il est vraiment né en Angleterre, mais donc son père est un immigré pakistanais avec les grosses traditions familiales qui l'enferment, et lui il aimerait bien vivre sa vie, mais concrètement dans le cadre dans lequel il vit, ce n'est pas possible. Et qui va découvrir avec Springsteen des paroles qui lui parlent de liberté, qui lui parlent de sortir de ses repères, qui lui parlent de découvrir la vraie vie. Et il va vivre sa vie. Donc c'est un mélange de comédie romantique, de comédie communautaire, d'acceptation. Mais on a déjà vu ce film 36 000 fois et le seul truc qui est agréable, c'est la musique de Springsteen.
Ça m'a fait penser, dans le marketing, ça m'a fait penser à Yesterday.
C'est exactement foutu pareil. Enfin, c'est pas foutu pareil, mais je veux dire, dans l'intention, il y avait beaucoup de ça.
quoi d'autre aussi à retenir dans les quelques avant-premières? On va pas toutes les faire, non, mais celles qui t'ont marqué.
Bah, il y a quand même le Terrence Malick, Hidden Life. J'ai pas spécialement adoré le film, mais c'est super beau à regarder, comme tout Terrence Malick qui se respecte. Donc ça, c'est plutôt cool. Non, il y avait Greener Grass, qui était une proposition de cinéma, mais complètement folle. Ça te fait penser à du Dupieux en 30 fois plus absurde. On a rarement vu un film aussi con, mais ça, moi, sur moi, ça a fonctionné du feu de Dieu. Il y avait des gens à côté de nous, justement, qui ne rigolaient pas du tout, qui ne comprenaient pas pourquoi on se marrait à gorge déployée. C'est vraiment du cinéma absurde au total.
Il est à l'affiche, celui-là, non?
Non. Ah non, celui-là, alors s'il existe, s'il sort un jour en France, bon courage.
Attends, comment tu dis qu'il s'appelle?
Greener Grass.
Il y a un film avec Grass en ce moment dans le titre.
Bah c'est pas celui-là, ça c'est sûr.
Confond avec River of Grass.
Ah oui, non, ça n'a
rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok, donc Greener Grass, tu t'as marqué, ouais, complètement voilà. Fou.
Donc ça, c'est dans des films que malheureusement, on n'aura peut-être pas. Voilà. Et dans les avant-premières, on peut considérer, parce qu'il y a aussi un prix qui est donné à un premier film français, tous les ans. Et cette année, c'était Les Misérables de Ladj Ly, qui est un film qu'il me tardait de voir, mais depuis un sacré moment, surtout depuis Cannes, où on en a beaucoup entendu parler. Et bah, je suis super content de me dire que le film que j'ai préféré dans cette édition était un film français. J'ai pris une claque pas possible. Allez voir Les Misérables, c'est de la violence sociale à l'état pur. Ça, c'est pas manichéen pour dessous. C'est une dinguerie, ce film. C'est une dinguerie. Je peux pas en dire plus.
J'ai hâte.
Ouais.
J'ai vraiment hâte. Et c'est vrai que les retours de Cannes étaient fous aussi. Ouais.
Là, vraiment, il y a eu Standing Ovation avec toute l'équipe du film qui s'est mise à chialer et c'était tellement mérité.
Et justement, on parle de mérite. Est-ce qu'il y a des impostures Est-ce qu'il y a des films qui te laissent perplexe?
Pas tant que ça. Pas tant que ça. Il y a eu, moi, je comprends pas pourquoi Bull a eu autant d'impact, même si le film n'est pas si mauvais que ça. On a eu très très peur sur. Il y avait deux films qui étaient vraiment très mauvais dans la sélection, enfin qu'on n'a pas du tout aimé en tout cas, c'était Amon Rai.
Alors, tu dis on, tu sais qui?
On, donc c'était les gens qui m'ont convaincu parce qu'on a fait une coloc à Deauville, donc du coup, c'est dans un petit microcosme de gens qui viennent de médias différents.
Et toi, tu y étais pour On se fait un ciné, c'est ça?
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'étais donc du coup avec la rédac chef du magazine en question. Et voilà, on était les deux de cette équipe-là. Autant il y a eu des fois où on a été divisé, autant il y a deux films sur lesquels on était assez unanime, c'était Amon Rai et Knives and Skin. Deux films assez obscurs au final qu'à mon avis on n'aura jamais en France. Et j'ai pas compris. Pas compris ce que ça venait foutre là.
Bien, bon ben une belle édition du coup.
Il y a eu du coup des remises de prix qui ont donné l'occasion d'avoir d'autres films présentés soit en avant-première, soit en rétrospective. On a eu en premier Pierce Brosnan qui est venu chercher un prix. Du coup, moi, ça m'a donné l'occasion de voir l'affaire Thomas Crown de McTiernan que j'ai trouvé affreux. J'ai trouvé ça irregardable, c'était tellement pas bien.
Pourtant, c'est son film, quoi. En dehors de James Bond.
Ouais, ils ont diffusé GoldenEye, ils ont diffusé le Polanski aussi.
Ghostwriter.
Il y a eu Sophie Turner qui est venue chercher le prix du Nouvel Hollywood, récompensant une star montante, qui est venue présenter Heavy. Un gros navet pas bon, voilà, qui essaie de faire du Aronofsky à la Requiem for a Dream, mais en pas bien.
On a vu des photos de Johnny Depp aussi.
Il y a Johnny Depp qui a été annoncé, mais au dernier moment, et qui du coup est venu. Donc ça, d'ailleurs, moi j'ai revu Pirates des Caraïbes, j'ai eu l'occasion de le revoir. Ils ont passé pas mal de Tim Burton, ils ont passé 2-3 films par-ci par-là, et là il était venu présenter Waiting for the Barbarians, qui est un film intéressant, mais pas très impactant. Mais il y avait Mark Rylance, et j'aime bien Mark Rylance, donc j'étais content. Alors la grosse surprise dans les gens qui ont été du coup nommés, c'était Sienna Miller. Parce qu'on a Sienna Miller qui est venue, et Sienna Miller, on la connaît tous pour jouer des seconds rôles, généralement des intérêts amoureux, ou G.I. Joe, le réveil du cobra. D'ailleurs, quand ils ont montré la rétrospective, quand ils te montrent la rétrospective avec des extraits de films et que tu tapes sa scène d'action dans G.I. Joe, le réveil du cobra, tu fais merde quoi. Et qui est venue présenter le troisième film du fils de Ridley Scott, Jake Scott, American Woman, qui est sûrement le deuxième film que j'ai préféré de tout Deauville. C'était un truc de dingue, super bien joué. Et cette nana, en fait, quand tu finis ce film, tu fais faites-la bosser, arrêtez de l'employer à faire de la merde, faites-la bosser. Cette nana est dingue. Voilà, renseignez-vous sur le film, ça vaut le coup. Il y avait aussi Kristen Stewart qui a reçu un prix. Du coup, ils ont présenté deux avant-premières, Seberg et J.T. Leroy, et ils ont remis du Asayas avec Personal Shopper, Sils Maria. Ils ont remis Twilight chapitre 1. Je ne suis pas allé voir, évidemment.
Oh, alors le pro là.
Voilà. Et il y avait Gina Davis qui est venue pour présenter un documentaire sur la condition des femmes à Hollywood. Un documentaire exceptionnel et ça fait écho du fait en plus qu'il y avait beaucoup de films présentés par des femmes qui parlaient de femmes dans cette édition. Et du coup, ils ont présenté aussi quelques-uns de ces films, dont Voyageurs malgré lui, il y avait 2-3 trucs. Et ça m'a permis de voir La Mouche de Cronenberg sur grand écran. Et j'ai pris une magnifique claque.
Merci Thierry.
Mais je t'en prie.
C'était Certains les Machos, merci Thierry.
Merci Thomas.
Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. En attendant le prochain épisode, le week-end prochain, eh bien on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à Clac Podcast, C-L-A-A-C Podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur votre application de podcast préférée. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et également, vous pouvez mettre un petit mot, mettre une étoile, un commentaire, enfin mettre des étoiles, un commentaire, pour faire remonter la visibilité et faire découvrir le podcast à ceux qui ne le connaîtraient pas. Vous pouvez aussi partager sur les réseaux sociaux qu'on a cités précédemment. On se dit au week-end prochain pour un nouvel épisode. Bisous, bisous, bisous.
Bisous, bisous, bisous.
Un jour de pluie à New York, du coup, on peut dire qu'on chante sous la pluie.
I'm singing in the rain.
Just singing in the rain.
What's glorious feeling, I'm happy again. Hey, pas mal. Sans préparation ni rien. Hein. Première prise. Première prise, bravo. Ça mérite un applaudissement, j'ai les mains pleines.